Merci Seigneur. Merci Seigneur. Voilà, c'est le grand mot d'ordre, hein, c'est vacances. Hein, je pense vacances. Et en français, ça vient du latin vacare. Et ça veut dire le vide. Quand on a un peu un temps vide devant nous, où on peut aussi vaquer, on a le mot vaquer, on peut vaquer à nos loisirs, vaquer, et donc on peut vaquer à la nage, on peut vaquer à la bouffe, on peut vaquer au sommeil. Mais c'est bien de vaquer, hein, de temps en temps. Et donc c'est là où on a le mot vacances. Mais qui connaît le mot vacances en anglais? Holiday. No, that is American. Anglais, c'est holiday. Holiday. Et donc, ça vient de deux mots. Holy day. Holy day. Ça veut dire Dieu, journée sainte. Holy day. Et donc, c'est un peu différent, hein? C'est un peu différent. Au lieu de vaquer, on va se sanctifier. Et j'ai dit, même si on ne part pas en vacances, chaque jour pour nous, c'est un holiday. C'est un holy day. Et ce n'est pas juste dimanche. C'est lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi, samedi. C'est notre holy day. Et donc, si tu veux être en vacances, il faut être holy. Il faut être saint. Parce que la sainteté est vraiment une force de liberté. C'est une force de vie. C'est une force de bonheur. Et quelquefois, on a mal utilisé, on a donné une mauvaise image de ce mot sainteté. Parce qu'on l'a rendu trop légaliste. On l'a rendu opprimante. On l'a fait comme un mot réservé, une sorte d'élite. Saint François, saint tel et tel. Et nous sommes un peuple saint. Ça, c'est la grande réalité, je dirais, du protestantisme, que chacun de nous, on est appelé à cette sainteté, mais pas par nos propres efforts. Comme nous venons de chanter, « Sois glorifié, car tu es ma sainteté. » C'est un cadeau. On accueille la sainteté en accueillant la vie de Jésus-Christ. Comme on accueille un baiser, comme on accueille la chaleur du soleil. On accueille la sainteté. Il ne faut pas rester à l'ombre. C'est vrai, on peut rester à l'ombre. Ou on peut refuser le bien-aimé. Non, je ne veux pas de baiser, je suis bien toute seule. Je suis quelqu'un qui vit sans baiser. Non, non, on a tous besoin d'un petit baiser de temps en temps. On a tous besoin de se bronzer à la grâce du Seigneur. Sinon, on devient tout blanc, comme un Anglais, comme un Nordiste. Mais quelquefois, ça fait du bien de s'exposer. C'est pour moi, quand j'étais là dernièrement sur les plages, moi j'ai peur de m'exposer. Je n'ai pas l'habitude. Tu vois, on a les gens, il y a des gens un peu plus méditerranéens. Ils se mettent en petites culottes facilement et leur peau est là exposée, ils craignent rien. Mais moi, voilà, je dis, c'est la baleine blanche qui va s'exposer là, tu vois. Et donc, j'ai peur, j'ai vraiment peur. Tu dis, mais là, il y a des parties qui n'ont jamais vu le soleil. Il y a des parties qui sont comme un peuple non atteint, qui n'ont jamais été atteints par le soleil. Et donc, quelquefois, on s'expose. Et il faut aller doucement, quelquefois il faut s'apprendre, il faut mettre des protections, mais d'un côté, je dirais, c'est comme ça avec le Seigneur, quelquefois il est tellement saint, il est tellement grand, on ne peut pas aller devant sa sainteté n'importe comment, en traînant tout notre bagage, notre péché, machin. C'est vrai, c'est un cadeau, mais il faut y aller, il y a un chemin de sanctification, et un chemin de... Mais ça fait du bien d'être exposé, et de dire, Seigneur, je me livre à ta sainteté. Et donc, c'est l'encouragement que Pierre il donne à son Église. Je vais juste lire 1er épître de Pierre, chapitre 1. Et c'est une exhortation à la sainteté. Il dit, de même que celui qui vous a appelé est saint. Tu vois, Jésus est saint. Dieu est trois fois saint. Le Père, le Fils, le Saint-Esprit, trois fois saint. Celui qui vous a appelé est saint. Vous aussi, devenez saint dans toute votre conduite, puisqu'il est écrit, vous serez saint, car je suis saint. Vous serez saint, car je suis saint. Lévitique 19:2. Et donc la sainteté, c'était le grand thème d'Israël. Mais pour eux, ils essayaient d'avoir une sainteté de l'extérieur, par ce qu'ils mangeaient, là où ils marchaient, ce qu'ils regardaient. Et ça, bien sûr, c'était une sorte de préparation. Et Dieu, il a accompli la sainteté en envoyant Jésus. Et il a mis la sainteté en nous, à l'intérieur de nous. C'est plus une loi extérieure, mais c'est une puissance intérieure. C'est comme une... C'est comme un charbon ardent qui brûle dans notre cœur, qui brûle toutes les tendances charnelles, tous les péchés. Et il faut de temps en temps souffler sur ces braises et que, ça, que la vie s'allume en nous. Et donc la sainteté, c'est un cadeau. Ce n'est pas une obligation, c'est quelque chose de naturel. C'est l'expression même de la vie chrétienne. Et donc j'aimerais parler de quatre côtés de la sainteté, hein, parce qu'il y a quatre choses. Hein, et donc la sainteté, premièrement, c'est une force de vie. Une force, une puissance de vie. Quand tu es saint, tu n'es pas tout blême, et tout triste, et tout étriqué, tout religieux. Quand tu es saint, tu exploses de vie. Et les gens remarquent, ils disent, mais qu'est-ce que tu as pris pour ton petit déj là? Qu'est-ce que tu as sur toi? Moi, j'ai la sainteté sur moi. C'est une beauté. C'est un traitement de beauté pour ton âme. La sainteté, ça te rend beau. Ça te rend beau, ça te déride. Ça te donne une fraîcheur. C'est quelque chose qui donne une vitalité à ton être. C'est une force de vie. Jésus, il a dit, je suis le chemin, la vérité et la vie. Je suis la résurrection et la vie. C'est un cadeau de vie, la sainteté. Voilà, je vais lire quelque chose en 2 Timothée 6. 1 Timothée, je pense. 1 Timothée. Chapitre 6. 1 Timothée, chapitre 6, et c'est verset 19. Et le contexte, c'est Paul qui parle aux riches. Il dit aux riches, voilà, la vie n'est pas juste dans l'argent. Il dit, si tu penses que la vie, c'est dans l'argent et dans ce que tu possèdes, ça, c'est une vie très superficielle. C'est ça le sens de son message. Et après, il dit cette phrase que j'aime beaucoup. Il dit, mais il vaut mieux amasser une vraie trésor. Et donc, verset 19, « Et qu'il s'amasse ainsi un beau et solide trésor pour l'avenir, afin de saisir la vraie vie. » Afin de saisir la vraie vie. Et en français, la vraie vie, ces deux mots grecs, c'est ontos zoé. Zoé, c'est vraiment cette vie divine. La vie de Dieu, zoé, c'est comme les voitures électriques Renault, zoé. Hein, tu as une batterie qui, voilà, c'est sans pollution. Voilà, c'est vraiment une qualité, c'est la vie de Dieu, c'est une qualité de vie. Et donc Dieu veut nous donner la zoé, et la sainteté te donne le zoé, mais il dit la vraie zoé. Et donc, si vous étudiez la philosophie, il parle d'ontologie. Et l'étude de l'ontologie, c'est qu'est-ce que c'est la réalité. Et le mot vrai, là, c'est ontos, c'est la vraie, la vie réelle. Et est-ce que vous saisissez, est-ce que les gens autour de nous, est-ce qu'ils saisissent la vie réelle? Parce qu'il y a beaucoup de vies superficielles. Et les gens se trompent. Ils saisissent la mauvaise vie. C'est une illusion. Beaucoup de vies sont des illusions. Et après, quand on est sur le point de mourir, on dit, mais j'ai vécu pour une illusion. J'ai vécu pour une illusion. Et même quelquefois, beaucoup de jeunes sont en crise parce qu'on leur offre des illusions de réussite. On leur offre notre système d'éducation et tout cela. Parce que c'est dépourvu de la sainteté, parce que c'est dépourvu de Dieu, on offre des illusions de vie. Et avoir d'un côté tout ce qu'on... le matérialisme, le plaisir, c'est ça qu'on offre aux gens. On dit c'est les deux choses, allez, matérialisme, plaisir. Et ces deux choses sont une illusion, c'est pas la vraie vie. Parce que la vraie vie, c'est en vivant caché dans la sainteté de Jésus. C'est une qualité de vie. Et donc la première chose, voilà, saisir la sainteté, c'est saisir la vraie vie. C'est une force de vie. Et quelquefois quand on saisit quelque chose, est-ce que vous avez une petite emprise, c'est, si j'avais un billet de, je sais pas, de 500 € dans ma main, moi, je pense que mon emprise sur ce billet serait très forte. Parce que ça a de la valeur pour moi, je vais saisir ça. Mais si j'ai un morceau de papier de toilette, je vais le laisser tomber vite. Hein? Tu le veux? Et d'un côté, il faut valoriser la sainteté. Tu sais, Ésaü, il a vendu son doigt d'aînesse pour un plat de lentilles. Parce qu'il méprisait la sainteté, l'appel qui était sur sa vie. Et quelquefois, en tant qu'église, en tant que chrétien, on ne saisit pas assez fort cette sainteté et on laisse l'ennemi prendre ça par des petits trucs bêtes, voler notre sainteté et dire, ah, bien sûr, Dieu peut nous restaurer. Mais il faut saisir la vraie vie, saisir la vie. Heureusement que je n'ai pas jeté mes notes. Et donc, la première chose, la sainteté, c'est une force de vie. La deuxième chose que je dois dire, c'est le mot, c'est kadosh en hébreu, kadosh. Et dans ce mot kadosh, il y a la notion de séparation. De séparation. Et bien sûr, c'est une séparation de tout ce qui est superficiel et bon marché. C'est une séparation avec le monde et toutes ses séductions. Une séparation avec ce qui n'est pas la vraie vie, avec tout ce qui nous alourdit, avec tout ce qui nous pèse, avec toute notre tristesse. Une séparation avec ce monde pour embrasser la vraie vie. Il faut se séparer des choses inutiles pour embrasser ce qui est utile. Et comme je disais au début, ce n'est pas par une loi qu'on est séparé, ce n'est pas par un tas d'interdits. Pour les Juifs, c'était ça. C'est interdit de faire ça, 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 ça. Parce que c'était de l'extérieur. Et c'était un guide, ce n'était pas mauvais. Mais maintenant, on a moins besoin d'être guidé par les 10 commandements, même si c'est utile. Hein, je ne dis pas que ce n'est pas utile, qu'on soit toujours guidé. Mais d'un côté, on n'a pas besoin de cette... d'une sorte de loi de l'extérieur, parce que cette loi est écrite dans mon cœur maintenant. Et plus j'ai la foi, plus j'accueille Jésus et la sainteté dans ma vie, je n'ai pas envie de me dévier. Je n'ai pas besoin d'une loi, parce que c'est une expression naturelle de ma vie. Je ne suis pas tout crispé, parce que je sais qu'il y a une force en moi qui est séparée de certaines choses. Et donc, comme je dis, ce n'est pas une séparation par la loi, ce n'est pas une séparation par un tas d'interdits, par des règles, mais on est séparé par une nouvelle alliance. On est séparé parce que ce n'est pas par une interdiction, mais par une nouvelle relation. Et c'est comme quand je suis tombé amoureux de Sylviane. Ça m'avait séparé des autres femmes, tu vois. C'est une conséquence. C'est une conséquence naturelle. Voilà, je t'aime tellement. Et c'était même pas dans ma pensée de dire, voilà, je vais être chaque jour tenté par 10 000 autres. parce que mon amour brûle pour un seul. Et si tu veux être saint, laisse ton amour brûler pour Jésus. Et après, tu n'as plus envie de courir à droite et à gauche pour être dans le plaisir de la vie, d'être séduit par des illusions. Mais aime Dieu, aime Dieu. C'est ce que saint Augustin, il a dit. Il a dit, aime Dieu et fais ce que tu veux. Aime Dieu et fais ce que tu veux. Parce que quand tu aimes Dieu, ce que tu vas faire va être de bonnes choses. Parce que c'est motivé par cet amour de Dieu. Sois consommé. Que la passion pour Jésus brûle en toi. Et ça va te garder. Ça va te... On est dirigé par une nouvelle alliance, par une relation d'amour pour Jésus. Bien sûr, c'est une bataille. Bien sûr, il y a la chair. Bien sûr, c'est pour ça qu'on a des moyens de la foi. C'est pour ça qu'on a la parole de Dieu. C'est pour ça qu'on a l'adoration. C'est pour ça qu'on a la communion fraternelle. Ça nous aide, ça nous pousse à la foi, parce qu'on aime Jésus. C'est, j'utilise des images charnelles. C'est beaucoup plus difficile d'un côté d'aimer Jésus. Je ne fais pas aimer Jésus comme j'aime Sylvia. L'image est limitée. Mais j'aime Jésus avec mon âme, avec mon esprit. Il y a quelque chose d'intérieur, une vie intérieure, une vie de foi. J'aime quelqu'un qui est invisible. C'est déjà quelque chose. Je cultive une vie invisible. Parce que qui peut voir? C'est vrai, toutes ces heures et toute cette réalité cachée d'entretenir une relation avec Jésus. Même tous les dimanches, pendant combien d'années, toute cette louange qui monte, c'est un peu invisible. Mais ce n'est pas invisible pour les anges. Et c'est crédité à notre compte céleste. Il y a un tas d'histoires là, en réserve pour nous. Mais aimer quelqu'un qui est invisible, c'est quand même un défi. Et il faut la foi. Parce que c'est avec la foi qu'on voit ce qui est invisible. Et donc on développe cet amour pour Jésus par la foi. Et la foi vient de cette parole. La foi vient de la prière, de l'adoration, de cultiver une vie. Et après, c'est un cercle vertueux, parce que plus on aime Jésus, plus on est passionné, et moins on pêche, moins on est dans l'illusion de la vie, plus on aime Jésus, et donc c'est très très vertueux de continuer ça. Et donc, je vais lire Lévitique 10:10, parce que c'est aussi une exhortation d'être séparé. Lévitique 10, et chapitre 10. Il dit, il donne un tas de lois pour les prêtres et tout ça, et il dit, afin que vous puissiez distinguer ce qui est saint de ce qui est profane, ce qui est impur de ce qui est pur. Alors là, tout le temps, le peuple devait dire, est-ce que ça c'est pur ou impur? Et c'est comme les musulmans aujourd'hui, hein. Je ne peux pas manger ça, ça c'est harem, ça c'est harem, c'est péché, c'est mauvais. Parce qu'ils sont toujours sous la loi. Mais nous, est-ce qu'on doit encore marcher? Est-ce que ça c'est ça? Est-ce que ça c'est permis? Est-ce que ça c'est pas permis? Quelle hauteur de la jupe? Quelle hauteur de... est-ce que je dois porter un chapeau? Est-ce que pas porter un chapeau? Toutes ces choses-là extérieures. Il ne faut pas être piégé par les choses extérieures. C'est quelque chose d'intérieur. On est piégé par le fait qu'on se pose souvent la question, est-ce que je suis saint? Si je vous pose la question, est-ce que tu es saint? Robert, est-ce que tu es saint? C'est déjà. Je garde la télé, je vais en vacances, je conduis une voiture. Est-ce que je suis saint? Ah, peut-être que je dois faire quelque chose pour être saint. Non, tu ne dois pas faire quelque chose, il faut aimer quelqu'un. Il faut aimer quelqu'un. Et. Est-ce que je dois atteindre? Est-ce que je dois ajouter, faire quelque chose pour être saint? Et donc, je dirais, passons de Lévitique 10:10 à Hébreux 10:10. D'accord? Parce que c'est quand même l'accomplissement. Hébreux 10:10. Si quelqu'un te dit, est-ce que tu es saint? Je peux dire avec certitude, allez, je vais lire Hébreux 10:10. Comme ça, c'est ma réponse. Robert, est-ce que tu es saint? Allez, Hébreux 10:10, c'est ma réponse. Écrit noir et blanc. Dans les Saintes Écritures. Hébreux 10:10. Il parle de cette volonté de Dieu pour mourir pour nous, cette volonté de se sacrifier, de donner son sang pour nous. Et c'est en vertu de cette volonté que nous sommes, moi je suis dans le nous sommes, que je suis sanctifié. Je suis sanctifié par l'offrande du corps de Jésus Christ. De temps en temps, une fois pour toutes. Voilà. Ce sacrifice, cette volonté d'aimer le monde, ce sacrifice, le corps de Jésus me sanctifie une fois pour toutes. Et donc même si tu es condamné, tu dis mais je ne suis pas saint, je viens de pécher, je viens de faire ça. Tu sais, on a toutes ces choses. Allez, revenons, c'est ça où il y a une bataille de foi. Bien sûr, il faut se repentir, il faut changer de direction, il faut dire Dieu, j'ai perdu ma patience. Et tu vas voir, tu dis, moi j'ai péché parce que je t'ai oublié. Ta passion ne brûlait pas dans mon cœur. C'est impossible de pécher. C'est impossible de ne pas être saint quand tu es follement amoureux de Jésus, quand le Saint-Esprit en toi. C'est très dur de pécher, je vous défie. Quand tu es bien, c'est presque impossible. Mais c'est quand tu es un peu triste, un peu éloigné, un peu dans le rejet, un peu dans le doute, quand le matériel, quand le visible, la souffrance et tout le reste est trop présent autour de toi, c'est à ce moment-là que tu dis « Oh, mais j'ai besoin d'un petit supplément pour vivre. » Et c'est là où il y a la bataille. Et c'est là où, bien sûr, on a besoin de la grâce pour revenir, mais c'est là aussi où on a besoin de s'entraîner. Et voilà, j'huile mon corps avec le Saint-Esprit. Il ne va pas m'avoir, cet ennemi. Et Jésus, il était tellement passionné tous les jours de sa vie qu'il n'a jamais péché. On n'est pas Jésus. Mais l'Esprit qui a habité en Jésus habite en nous. Il est en lutte avec notre chair. Mais chaque jour, on peut avoir la victoire. Et donc, soyez saints. Et on est sanctifié par Hébreux 10, 10. Tu es saint. Point final. Il ne faut pas mettre ça en doute. Et tu peux expérimenter de plus en plus cette sainteté. Allez, troisième chose. Et donc, j'ai dit, c'est une force de vie, c'est une séparation avec le monde. La troisième chose, c'est une ressemblance à Dieu. C'est une ressemblance à Jésus. Cette sainteté te fait ressembler plus à Jésus. Et donc, Lévitique 11, 44. Lévitique. C'est où? Lévitique 11, 44. Car je suis l'Éternel, votre Dieu, vous vous sanctifierez et vous serez saints, car je suis saint. D'accord? Vous vous sanctifierez et vous serez saints, car je suis saint. Et après, ce que j'aime beaucoup, parce que c'est un passage où il a parlé de ne pas manger des serpents, de ne pas faire telle et telle chose, il est dans toute une liste des choses, et de ne pas manger des reptiles, des lézards, ou même de ne pas même toucher des reptiles. Et donc j'ai dit, mais est-ce que aujourd'hui Jésus-Christ et mon évangile se concernent des reptiles? J'ai dit, c'est toute une sorte de cours de biologie sur ce qu'il faut faire, des petites bêtes, parce qu'il est très détaillé en Lévitique, ce qui, là où il faut marcher. Et bien sûr, ces reptiles, dans l'Ancien Testament et tout ça, c'est une image de tous ces démons, de tous ces trucs impurs, de toutes ces petites bêtes qui peuvent nous piquer, tout ce qu'on regarde, ce qu'on touche, toutes ces amertumes, toutes ces querelles, toutes ces calomnies qui peuvent sortir de notre cœur et qui nous rend impurs. Je ne sais pas si ça vous est jamais arrivé, ça, de temps en temps, ça m'est arrivé, de critiquer quelqu'un. Tu vois, ça c'est plus fort. Et après, je me sens sale. Je dis, mais quelque chose, j'ai sali mon âme. Oh, pardonne-moi, Seigneur. Oh, Jésus, qu'est-ce que j'ai fait, ces petites bêtes que j'ai mangées là. Oui, il y a beaucoup de petites choses. Et là, à la fin de Lévitique ici, il dit, et vous ne vous rendrez pas impurs par toutes ces petites bêtes qui rampent sur la terre. Et j'ai dit, mais faites attention à toutes ces petites bêtes qui rampent. Hein? Mais ils ne rompent pas sur la terre maintenant, ils rompent dans les lieux célestes. Ils veulent entrer dans tes pensées, ils veulent entrer dans tes cœurs. Ça, c'est la lutte spirituelle. Faites attention, sanctifiez-vous. Dis halt. Il ne faut pas laisser les lézards rentrer dans le cœur. Il ne faut pas laisser les chauves-souris faire leur nid dans vos cheveux. Il faut vous libérer. Soyez comme Jésus. Ressemblez à Jésus. Cette force de vie qui était en lui. Et ressemblez à Jésus. Jésus était en bonne santé. C'est la, quand c'est, cette ressemblance à Dieu, ça a un bénéfice pour tout le corps. C'est une force de guérison. C'est la guérison n'existe pas juste comme un truc dans l'église chrétienne. Voilà, on guérit. Comme ça, c'est on frôle quelquefois d'être comme les guérisseurs. Si c'est juste le but, c'est de guérir. Si tu veux être guéri, tu dis, Seigneur, je veux te ressembler. Jésus n'était jamais malade. Je veux te ressembler, Seigneur. Je veux te ressembler. Je veux que cette force de vie m'imprègne corps, âme, esprit. Bien sûr, on n'est pas encore au ciel. Je ne veux pas prêcher la perfection totale, la sainteté totale, parce qu'on est dans le déjà pas encore. Mais jusqu'où c'est possible, Seigneur, imprègne-moi. Je veux te rassembler. Je veux te ressembler, Seigneur. C'est mon désir. Je veux être comme toi. Je veux que mon attitude te ressemble de plus en plus. Parce que la barre est très haute. Mais la sainteté, c'est aussi une force de se ressembler à Jésus. Et il y a une notion de shalom là-dessus. D'être entier, d'être uni en toi-même, d'être en harmonie. Tu sais, les gens, ils cherchent l'harmonie aujourd'hui. D'être en harmonie, d'être en équilibre. Mais je dirais, c'est la sainteté te donne l'harmonie et l'équilibre. Ça te donne l'équilibre de Jésus, le cœur de Jésus. Et c'est ça l'Église, c'est d'être un groupe de personnes qui sont en formation pour être de plus en plus comme Jésus. Et c'est ça. Les pharisiens, ils étaient choqués quand ils voyaient Jésus, parce qu'ils disent, mais il connaît les Écritures, lui qui n'a pas étudié. Et être un bon chrétien n'est pas juste une question d'études, heureusement. Hein, c'est pas juste une question d'avoir le bac ou ne pas avoir le bac, d'être intelligent et tout ça. C'est une grosse erreur qu'on a fait avec l'Église. Hein. C'est une grosse erreur parce qu'on a jugé les gens par un certain critère intellectuel. Mais le critère, c'est est-ce que tu es comme Jésus dans tes attitudes? Est-ce que tu prends le linge comme Jésus a pris le linge pour servir? Est-ce que tu es là en aimant? Est-ce que tu aimes la justice? Est-ce que tu aimes la vérité? Est-ce que tu es là comme serviteur? Est-ce que tu es là? Est-ce que tu aimes? Est-ce que tu es en train de construire des relations de sacrifice et d'amour entre vous? Et c'est ça. Et il y aura beaucoup de surprises dans le ciel. Parce qu'il y a les gens qui peut-être ils connaissent beaucoup de choses, mais quand tu vois leur vie, ça ressemble pas beaucoup à Jésus. Et il y a d'autres que peut-être on les juge précipitamment et finalement leur vie ressemble beaucoup à Jésus. Et c'est surtout aimer. C'est ce qu'on dit tout le temps, mais Jésus a aimé. Et il n'a pas aimé avec des paroles, mais avec des actes. Et il a aimé. Et il aimait la vérité et il marchait dans la sainteté. Et donc, la troisième chose, c'est se ressembler à Jésus, avoir une ressemblance à Jésus. Et ça, c'est bon pour tout notre corps. Seigneur, donne-moi la santé de Jésus. Quelquefois, je dis, mais quand j'ai un rhume, je dis, mais Jésus, est-ce que tu t'es mouché? Comme moi, je suis en train de moucher là. Je dis, les Kleenex, ça passe. C'est affreux. Je dis, mais Jésus, est-ce que tu n'as jamais vécu ça? Il dit, non, j'étais en parfaite santé. Je dis, mais Seigneur, tu ne veux pas me donner un peu de ça? J'aimerais bien te ressembler. C'est pour des petits trucs, quelquefois. Et bien sûr, on n'est pas. Je ne veux pas prêcher la perfection comme ça, maître. Mais il y a des petits trucs. Et après, bon, souvent ça ne marche pas pour moi. Tu vois, je dois dire, je n'ai pas la guérison instantanée. Et donc j'ai dit, d'accord, Seigneur, chaque fois que je me mouche, je vais dire gloire à Jésus. Je vais prier. Je vais faire une prière. Et après, je dis, oh, mince, j'ai fait une erreur parce qu'il va me coller maintenant sur ce rhume parce que je prie plus, ça me pousse à l'intercession, je suis plus utile. Mais bon, on gagne tout le temps, toutes choses coopèrent pour le bien de ceux qui aiment Dieu. Et donc, pour terminer, quatrième chose, la sainteté, c'est un dynamisme, c'est un mouvement. Quand tu accueilles la sainteté, tu accueilles le mouvement. Tu accueilles le mouvement. Et il y a quelque chose de dynamique. C'est le mot pour puissance, c'est dynamisme. Vous recevrez une puissance, mais ce n'est pas statique. Ce n'est pas statique. On est extatique, mais on n'est pas statique. On est dans une sorte de mouvement envers les autres, un mouvement d'amour. Quand on a parlé de ce fleuve ce matin, le fleuve de Dieu, on est pris dans ce fleuve. Et c'est un fleuve de sainteté qui nous donne de la vitalité et du mouvement. Vous savez, quand tu es saint et vous êtes saint, tu es extraordinaire. Tu es extraordinaire. Quand tu es profane, tu es juste ordinaire. Et je veux vous dire, chacun de vous, vous êtes extraordinaire. Il faut pas dire ça d'une manière orgueilleuse, mais d'un côté, quand vous êtes là dans le bus, moi je suis extraordinaire. C'est une sorte de... C'est une gloire cachée, parce que c'est invisible pour les gens qui n'ont pas la foi. Mais l'Église, elle est extraordinaire. On est un peuple saint, extraordinaire. On n'est pas juste fade et ordinaire. Ma vie, j'ai une vie de prière. Je suis en communion avec celui qui a créé l'univers. Je suis celui qui ne me laisse pas avoir par ce monde. Je suis en train de... Je suis une personne importante aux yeux de Dieu. Je suis extraordinaire. Et ça nous aide quelquefois à recevoir des rejets des autres. On n'a pas toujours... Il ne faut pas dire à ton patron demain, « Je suis extraordinaire. Augmente-moi. Mais c'est un secret caché. C'est un secret caché entre nous. C'est un secret caché entre toi et Jésus. Quand tu es humilié, et quelquefois les gens les plus extraordinaires ont été souvent les plus humiliés. Mais ça nous fait briller encore plus. C'est le mystère de Dieu. Mais la sainteté, ça nous rend extraordinaires. On est des personnes qui pétillent, qui ont cette vraie vie. Et Ésaïe, il a vu la sainteté de Dieu. Et il est allé un jour se bronzer à la plage, mais il s'est fait avoir. Hein. Il s'est fait brûler un peu. Parce tout d'un coup, il était dans la présence de Dieu. Vocation d'Ésaïe, chapitre 6. Là, tout d'un coup, il est là et il dit, « Oh, je vais faire un petit peu personnel. » Quelquefois, je dis, « Mais Robert, si vraiment, quand tu fais ton petit culte personnel, si Dieu, il se laissait ici se dévoiler dans toute sa gloire, waouh, il faut être bien. Bon. Allez, c'est bien, passe-moi encore. Crème anti-solaire. La grâce. Et lui, en verset 3, là, verset 3. Il criait l'un à l'autre. Il voyait des anges et tout, le trône de Dieu. Il criait l'un à l'autre et disait, « Saint, Saint, Saint !» C'est ça la description de Dieu. « Saint, Saint, Saint est l'Éternel des armées. Toute la terre est pleine de sa gloire. » Parce qu'il faut voir dans la nature, dans la beauté de la nature, nous voyons aussi une sainteté. Dans la beauté de la nature, il y a aussi une sainteté. Une expression de cette gloire. Et après verset 5, il dit devant toute cette grandeur, malheur à moi, malheur à moi. Bon, nous on est dans le Nouveau Testament. Maintenant, je dirais pas autant malheur qu'Ésaïe, parce que moi je dis, allez, regarde le protistis. Grâce, je suis couvert. Allez, je suis couvert. Le corps de Jésus. C'est lui, il était un peu toujours être bien. Il était un peu plus sous pression que nous. Mais quand même, malheur à moi, il dit, voilà, je suis un homme, mes lèvres sont impures, j'habite au milieu de toute cette impureté. Mais après verset 6, et c'est un symbole de Jésus qui devait venir. Mais l'un des séraphins vola vers moi. T'imagines un séraphin qui vole vers toi. Mais incroyable. Tu sais, il était dans cette autre réalité spirituelle et devenue réelle pour lui. Un des séraphins vola vers moi, tenant à la main une braise qu'il avait prise sur l'autel avec des pincettes. Ça chauffait. Mais là, il en toucha ma bouche et dit, ceci a touché tes lèvres, ta faute est enlevée et ton péché est expié. Mais tu sais, un jour, il y a plus que juste une braise. Il y avait cette braise ardente sur la croix. Et ça chauffait d'intensité. Et là, quand on prend la Sainte Cène, c'est vrai, ça ne brûle pas, pas trop nos lèvres, un peu de pain, un peu de vin. Mais ce pain et ce vin, dans la réalité spirituelle, c'est comme une braise. C'est comme une passion de sainteté qui va brûler dans nos cœurs, qui brûle le péché, qui dit, voilà, t'es libre. Allez, ça brûle notre chair. On est frères, on est intimement liés avec cette mort de Jésus pour vivre en résurrection sa sainteté. Et que chaque jour, Dieu touche notre cœur et notre bouche avec cette passion, avec cet amour pour lui, avec cette grâce qui brûle en nous. Cette grâce et cet amour, c'est pas une loi, mais c'est une braise. C'est pas une loi, c'est pas des règles, mais il y a quand même une braise. Et il faut souffler sur cette braise. Et quelquefois, cette braise est devenue tiède par l'habitude ou par négligence. Mais il faut souffler sur la passion de Jésus de notre cœur et de retrouver cette sainteté. Et après, quand il est bien là, dans la présence de Dieu, dans la sainteté, il entend la voix du Seigneur. Et la sainteté nous fait entendre la voix de Dieu. La sainteté nous fait entendre la voix de Dieu. Et il entend quelquefois, il entend, qui enverrai-je? C'est ce dynamisme dans la sainteté de Dieu. Voilà, boum, il est dans le fleuve. Qui enverrai-je? Et qui marchera pour nous? Et il répondit, parce qu'il y a une réponse à la sainteté. La sainteté n'est pas juste une théorie. Voilà, je vous enseigne la sainteté. Non, c'est dangereux. C'est une force de vie. C'est une séparation, c'est se ressembler à Jésus, mais c'est aussi c'est une mission, c'est un mouvement. Qui enverrai-je? Parce que là, je veux que d'autres attrapent ce bronzage. Je veux que d'autres attrapent cette vie. Qui enverrai-je? Et Esaïe, au milieu de cette explosion de sainteté, il dit, me voici, envoie-moi. Mais ce n'est pas un effort. Ce n'est pas un effort parce que ça brûle sur ses lèvres. Ça brûle dans son cœur. Et que Dieu nous aide à retrouver la passion de la sainteté. Que ça ne soit pas comme un devoir légaliste, mais comme une explosion de notre passion et notre amour pour Jésus. Une expression de notre amour pour lui qui nous renouvelle, qui nous donne cette vraie vie qui nous sépare de tout ce qui n'est pas utile. Qu'on ne soit pas piqué par toutes ces petites bêtes qui rampent sur la terre. Qu'on ne vend pas bon marché le cadeau de la sainteté que Dieu nous a donné. Qui nous donne un corps, un esprit saint dans un corps saint. Se ressembler à Jésus et qui nous donne ce mouvement envers l'autre, cette mission et ce dynamisme. Seigneur, me voici ce matin. Me voici, Jésus. Me voici. Je suis un être extraordinaire ce matin. Seigneur, j'ai une braise dans mon cœur. Seigneur, touche-moi de nouveau par le feu de ton esprit. Rends-moi saint, Seigneur. Je veux accueillir de nouveau la sainteté dans ma vie. Je veux accueillir, Seigneur, le feu de ton amour pour que je puisse t'aimer avec une passion énorme, Seigneur. Oh, Seigneur, explose de nouveau dans ma vie. Seigneur, brûle en moi, Seigneur. Seigneur, merci. Me voici. Envoie-moi pour ta gloire. Amen.